avions commencé l'année dernière l'histoire, la philosophie politique, un domaine très important, un domaine difficile. Je n'avais jamais osé l'aborder jusqu'ici, et je l'aborde pour vous, donc, parce que c'est toujours très complexe, et c'est important. Alors, nous ne faisons pas de la politique, hein, mais nous faisons la philosophie politique, c'est très différent. C'est-à-dire, nous réfléchissons sur l'homme, toujours la réflexion de l'homme en premier lieu, engagé dans une communauté. L'homme est un animal politique. Quand Aristote dit ça, il dit quelque chose de très important. Un animal politique. C'est-à-dire que l'homme est une partie d'une communauté. Dès qu'on est partie d'une communauté, il y a une politique. Il y a une politique de toute communauté, même dans la vie religieuse. On retrouve des orientations différentes au point de vue communautaire et quand on pense ce que c'est que l'aspect de communauté. Donc c'est réfléchir philosophiquement sur l'homme engagé dans une communauté. Comme le problème est très complexe, j'ai voulu, pour prendre un peu de distance et ne pas m'engager tout de suite, faire une topique historique. Dans une topique historique, on essaie de voir quelles sont les grandes positions philosophiques sur le problème politique. Alors, je vous avais renvoyé à Jean-Jacques Chevalier, Histoire de la pensée politique, parce que ça me semble un des livres plus intéressants sur cette question-là. Alors, ce n'est pas directement, faisons attention, hein, ce n'est pas directement une topique philosophique, histoire de la pensée politique. C'est quelque chose d'intéressant, c'est une matière intéressante. Alors, au niveau topique historique, nous avons regardé Platon, qui est quand même le père de la politique. C'est quand même le premier qui réagit politiquement contre les sophistes. Socrate réagit personnellement contre les sophistes. Les sophistes, ce sont les politiciens de toutes les époques, c'est-à-dire des hommes qui veulent profiter de la communauté et qui essaie d'avoir le pouvoir pour profiter de la communauté. Et les sophistes, ce sont des rhéteurs, des beaux parleurs, comme on dirait aujourd'hui, des rhéteurs qui essaient d'avoir le pouvoir. C'est très intéressant, les sophistes. On est dans un âge sophiste au niveau politique. Il suffit de regarder les propagandes qui se font autour des élections. À ce point de vue-là, ce serait un lieu merveilleux pour voir ce que c'est que les sophistes. Des sophistes de droite, des sophistes de gauche, ça n'a aucune espèce d'importance. Le tout, c'est d'arriver au pouvoir. De temps en temps émerge un tout petit point de vue humain. De temps en temps émerge un tout petit point de vue humain. Mais la plupart du temps, on reste au niveau du pouvoir et non pas de l'autorité. Et nous y reviendrons sur cette distinction. Ça, c'est ce qu'on appelle les partis politiques. Et les partis politiques, on divise la tarte suivant des parties plus ou moins grosses, plus ou moins petites. Et on se divise, hein, l'héritage d'un pays, le patrimoine d'un pays, plus ou moins brutalement, violemment, mais c'est ça. Socrate réagit moralement, non pas politiquement. Il y a toujours des gens qui réagissent moralement et pas politiquement. C'est très très curieux ça. Pas avec le génie de Socrate, évidemment. Socrate, il y en a eu un. Il était grec. Il était d'Athènes. Et sa mère était une sage-femme. Donc il avait le sens de ce que c'est que la famille. Et le sens de la naissance. Et c'est pour ça que toute sa tactique, sa magnétique, c'était une sage-femme. Sa mère l'a marqué très fort. Et dit, vous êtes une sage-femme au plan intellectuel. Soyez sage-femme au plan intellectuel. C'est-à-dire, essayez de montrer tous les avortements, toutes les méconnaissances des gens, les ignorances. Platon, lui, est le grand philosophe politique premier dans la République. Alors, je ne vais pas reprendre ici la politique de Platon. Nous l'avons vu, c'est quelque chose de très important. Il y a la politique et les lois. Deux grands ouvrages. La politique, le titre propre, c'est « Dialogue sur la justice ». Platon montre que la justice ne peut se comprendre que dans la lumière du bien en soi, que contemple le philosophe. Le philosophe contemple bien soi. Le philosophe est sorti de la caverne. La caverne, c'est là où nous sommes tous. Nous ne voyons que l'ombre des réalités. Et nous croyons que ces ombres, ce sont les réalités. Mais c'est juste l'inverse de Nietzsche. Diamétralement opposé. Nietzsche, la réalité, c'est ce qu'on voit et ce qu'on touche. Pour Platon, ce qu'on voit et ce qu'on touche, c'est les apparences. D'un domaine qui est au-delà invisible, les formes idéales. Il faut sortir de la caverne pour contempler le bien en soi. Et une fois qu'on a contemplé le bien en soi, on revient auprès de ses chers confrères, quitte à se faire massacrer, parce qu'eux n'ont rien compris. Ils ont continué de regarder les phénomènes, croyant que c'est la réalité, les ombres, les ombres. C'est très joli, la recherche de la vérité, dans ce mythe de la caverne. Et c'est la découverte de la justice qui va permettre aux philosophes de faire le lien entre la contemplation du bien et la communauté. La communauté, elle s'érige autour de la justice. Et la justice n'est parfaitement saisie qu'au niveau de la communauté politique. Elle vit dans la justice. Chacun doit être à sa place. Ce n'est pas tout à fait la justice de Saint-Benoît, puisque dans cette justice de Platon, il faut regarder les capacités de chacun et mettre chacun là où il est plus capable de réaliser le mieux son métier. Donc c'est commandé par l'efficacité. Si vous êtes un bon cordonnier, surtout qu'on ne fasse pas de vous un boulanger. Saint-Benoît ne dit pas tout à fait ça. Saint-Benoît regarde plus l'aspect de la vertu, tandis que Platon ne regarde pas la vertu. Il regarde le besoin des hommes. Et la communauté, c'est pour le besoin des hommes. Parce que le véritable bonheur est au-delà du point de vue politique. Et la politique est uniquement au niveau du besoin des hommes. Et la justice consiste à mettre chacun à sa place. Et si les gens ne comprennent pas, on a le droit de mentir. Parce que, étant dans la caverne, ils ne voient que les apparences. Et c'est leur bien de les faire sortir de cette apparence pour les faire tendre vers le bien en soi. Donc, première philosophie politique, Platon, qui n'est pas directement éthique, si vous voulez. Elle est éthique, elle est morale, par la justice. Mais c'est une justice vue pour remplir les besoins des hommes, pour répondre aux besoins des hommes. Face à Platon, Aristote. Nous avions vu un peu ce que c'était que la philosophie politique d'Aristote et le lien entre l'éthique et la philosophie politique. Aristote est le premier à faire la distinction entre une éthique politique et une éthique personnelle. Ça, c'est le génie d'Aristote, d'avoir fait une distinction entre les deux. Dans un monde où l'aspect politique communautaire l'emporte. Voyez, vous pourriez faire, hein, comprenez bien, hein, c'est une analogie. Différence entre Platon et Aristote, différence entre la première alliance et la seconde alliance au niveau chrétien. Dans la première alliance, on est en face d'une éthique communautaire, le peuple de Dieu. Dans la nouvelle alliance, on est en face d'une éthique personnelle, on est enfant de Dieu. Eh bien, il y a une analogie entre les deux qui est très intéressante à voir, parce que ça nous fait comprendre le passage du primat communautaire sur le primat personnel et individuel. Quand il y a un primat individuel et personnel, on est en face d'une éthique personnelle qui naît. Quand on est en face du primat communautaire ou collectif, on est en face d'une éthique politique qui est première. Surtout des problèmes très actuels, tout ça. Hein, vous voyez bien, on touche des tas de problèmes là-dessus. Aristote est le premier à montrer la place de la famille. Sa politique repose fondamentalement, non pas sur le besoin, mais sur la famille. Le besoin est présent, mais n'est pas premier. Parce qu'Aristote est le premier à avoir découvert que l'aspect politique impliquer une recherche d'un bien. Alors que pour Platon, il n'y a pas de recherche de bien, on est en face d'une nécessité. L'homme est lié au corps, non pas du tout pour le bien de l'âme, mais c'est une nécessité. Tandis que pour Aristote, l'âme est unie au corps pour le bien de l'âme. Et donc, la communauté qui est voulue par le corps, c'est pour le bien de l'âme. C'est le premier qui a fait ça. Il a découvert ce que c'était que le bien commun. Il n'y a pas de bien commun chez Platon. Cherchez bien, ça n'existe pas. Parce que l'aspect politique est une nécessité qui s'impose à cause du lien de l'âme et du corps. Vous voyez, au fond, j'allais dire, telle vision sur l'homme, telle anthropologie, telle conception des rapports entre l'âme et le corps engendre immédiatement une vision semblable au niveau politique. Et ça, ce serait très intéressant à voir et à préciser par rapport à Aristote et Platon. La conception de Platon de l'union de l'âme et du corps, la conception d'Aristote de l'union et de l'âme et du corps, sont source de deux visions politiques totalement différentes. Et là, nous sommes en présence de deux grandes philosophies politiques. Celle d'Aristote, celle de Platon. Alors, celle d'Aristote vient après celle de Platon, et donc Aristote critique Platon. La grande critique qu'Aristote fait sur Platon, c'est de considérer que pour Platon, la politique est ordonnée vers le plus grand unité. Et Aristote dit non, pas du tout. Ce n'est pas l'unité que la politique cherche, en premier lieu. C'est le bien commun. C'est le passage de l'un au bien, si vous voulez, et au bien commun. Aristote est donc le premier à avoir montré que la famille, c'est le fondement de la politique. La politique est nécessaire à cause de la famille, tout simplement. Pour Platon, la politique est nécessaire à cause des besoins. C'est pas la même chose. Tandis que pour Aristote, c'est nécessairement à cause du point de vue de la famille. Et donc, Aristote a toute une philosophie de la famille. Très intéressant de voir ça. Et à partir de cette philosophie de la famille qui enveloppe le point de vue économique, parce que l'économie est vue par rapport à la famille. L'économie, chez Platon, est vue par rapport aux besoins. Pas la même chose non plus. D'une certaine manière, l'économie chez Platon, elle peut s'étendre indéfiniment, dans la mesure où se créent de nouveaux besoins. Pour Aristote, l'économie est relative à la famille. Et on passe de la famille directement à l'aspect politique. La communauté fondamentale, c'est la famille. La communauté politique, c'est la communauté parfaite. Alors, il y a le fondamental et le point de vue perfection. Ce qui permet d'introduire d'autres communautés. Mais Aristote ne les regarde pas. On pourrait regarder, on ne l'a pas fait, mais je le souligne ici pour compléter. On pourrait regarder la politique chez les stoïciens. C'est quand même un moment très important. Parce que pour Aristote, seuls les Grecs sont capables d'une philosophie politique. Les autres, ce sont des barbares. Et les autres sont des barbares parce qu'ils ne savent pas distinguer dans la femme l'esclave et l'épouse. C'est très intéressant. Donc, on est barbare dans la mesure où on ne voit plus que l'efficacité. On est cultivé dans la mesure où on découvre le bien commun. C'est pour ça qu'on retombe dans un monde barbare aujourd'hui. Parce qu'on ne voit plus que l'efficacité économique. Et quand il n'y a plus que le problème de l'efficacité économique, c'est le signe de la barbarie. Tandis qu'au contraire, le signe de l'homme cultivé, donc de l'homme libre, c'est de découvrir une finalité au niveau communautaire. Le stoïcien, lui, dépasse la distinction du barbare et du grec. Et on est en premier avec les stoïciens, on est pour la première fois en face d'une politique internationale. La première internationale est stoïcienne. Et là, ça n'a pas de musique. C'est intéressant. Alors, inventer la première, avec la musique stoïcienne, inventer cette internationale stoïcienne. L'homme est citoyen du monde. C'est quand même très beau de voir ça. L'homme est citoyen du monde. Donc, on est au-delà de la distinction du grec et du barbare. Tout homme doit être citoyen du monde. Et on comprend que cette politique est commandée par une vision éthique et physique. Physique, c'est l'unité de notre cosmos. C'est l'unité de l'espèce humaine. L'unité de l'espèce humaine commande une unité politique. Enfin, on peut dire qu'il y a là quelque chose qui prépare, comme on l'a dit, alors ça c'est le théologien qui parle, qui prépare l'œcuménisme catholique, qui prépare la catholicité. Même si le stoïcisme implique un certain idéalisme. C'est vrai, citoyen de l'univers, citoyen du monde, c'est quelquefois un peu idéaliste. On a vu ensuite comment le problème de la foi dans le christianisme posait un nouveau problème au point de vue politique. C'est le mystère de l'Église inséré dans des politiques multiples et diverses. Et ceci, c'est un problème très nouveau, parce que pour les Grecs, l'aspect religieux était soumis à l'aspect politique. L'État devait s'occuper de la liturgie. La liturgie devait être un signe d'une appartenance à tel ou tel groupement religieux, et ces groupements religieux étaient soumis à l'État. Donc, on voyait déjà ce que représentait la communauté religieuse. Vous voyez, il y avait communauté familiale, communauté religieuse, communauté politique. Je crois que dans Aristote, on voit les trois. Et chez les stoïciens, on voit la communauté universelle, citoyen du monde, qui assume la communauté religieuse. Puisque les stoïciens sont religieux, hein. Même si on a dit qu'il y avait certains d'entre eux qui étaient des athées, ils sont quand même religieux. Ils ont un sens de Zeus. C'est Zeus, le dieu des dieux. Vous voyez, Cléante dit ça admirablement. Il y a des jeunes visions d'un dieu unique chez les stoïciens qui va très loin. Et c'est la volonté de Dieu que nous poursuivons dans Épictète. L'homme doit être passionné d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est la seule chose qui demeure. C'est la seule chose qui est intéressante et qui fait l'unité. C'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors, avec le christianisme, on ne peut plus soumettre à l'État la communauté chrétienne. La communauté chrétienne a quelque chose d'irréductible à toute politique humaine, à toute philosophie humaine. Il y a la transcendance de la foi. Et la transcendance de la foi va donc faire que la communauté chrétienne est comme un corps étranger dans l'aspect politique humaine. Et c'est pour ça qu'en premier lieu, il ne faut pas l'oublier, la communauté chrétienne à Rome est apparue comme un ennemi à l'égard de l'esprit politique romain, de l'Empire romain. Et il y a eu toute cette opposition de l'Empire romain par rapport à ce levain évangélique, par rapport à la communauté chrétienne. Il fallait que la communauté chrétienne comprenne ce que c'est qu'une communauté chrétienne. Elle est spirituelle, elle est divine, mais elle est incarnée. Jusqu'où l'incarnation va-t-elle s'opposer à ce que représentent les exigences d'une politique impériale, d'une politique qui se veut souveraine? Elle s'était soumise à la liturgie et toutes les exigences des traditions religieuses. Elle les respectait, mais elle les assumait. Le christianisme n'accepte plus d'être assumé par l'État. Il y a quelque chose dans le christianisme qui, par rapport à l'aspect politique, fait comme un éloignement. Le chrétien est premièrement du Christ. Le Christ est son Seigneur. Il est son César, vous voyez bien. Il est son Seigneur, il est celui qui le prend totalement. Le chrétien se considère comme entièrement repris par le Christ. régénéré par le Christ. Alors peut-il rester encore citoyen du monde? C'est les grosses questions du début. Et c'est les grosses questions qu'on se repose aujourd'hui dans la mesure où nous entrons dans une communauté politique qui se matérialise, ou du côté libéral, ou du côté marxiste. Que devient le chrétien dans une telle communauté? Ce sont les problèmes exacts que se pose le chrétien au point de départ. Aaron, est-ce que je peux faire encore partie de cet empire païen si je suis chrétien? Ou si je dois me séparer complètement de cet empire si je suis chrétien? Alors, si je suis dans des postes particuliers comme dans l'armée, est-ce que j'ai le droit de brûler de l'encens à César, promettre obéissance absolue à César? Mais c'était ce que le Saint-Père avait souligné dans une audience à des infirmières à Rome. Vous allez sans doute vous retrouver dans des situations analogues aux premiers chrétiens à Rome. Et en conscience, vous serez obligé de briser le poste que vous avez vous-même pour rester chrétienne. Parler des avortements, il parlait de tout ce que pouvait être, si vous voulez, appeler une infirmière ou un médecin, encore plus. Il est plus libre, le médecin. L'infirmière est membre d'une communauté. Le médecin, il peut plus facilement arriver à dépasser. Tandis que l'infirmière, elle est ligotée. Alors, est-ce qu'elle doit rester ou pas rester? Vous voyez, c'est tous ces problèmes-là qui sont des problèmes politiques. L'insertion du levain évangélique dans une politique qui n'est plus une politique humaine. Et c'est ça qu'il faut montrer, que si on s'oppose au christianisme, on n'est plus une politique humaine. On devient une politique idéologique. Elle n'est plus humaine, elle n'est plus au service de l'homme. Elle ne respecte pas le bien commun. Alors, c'est à partir de là qu'il faudrait comprendre. Et Jean-Jacques Chevalier le fait bien, le montre bien. Toutes les diverses solutions qui ont eu lieu en face du christianisme qui est communautaire et en face de la communauté politique. Peut-il y avoir une espèce de vie parallèle, d'un respect mutuel, sans dépendance, ou nécessairement y a-t-il une dépendance? Alors évidemment, avec la conversion de Constantin, toutes les lois contre le christianisme tombent, et on commence à voir comment le christianisme peut-il vivre, coexister avec l'aspect politique. Vous avez les deux cités de Saint-Augustin. Vous avez tout un aspect politique chez Saint-Augustin. Vous avez, oh, il y a toutes des séries de querelles, je ne reprends pas tout cela, mais c'est intéressant, c'est très intéressant, ça fait partie de l'histoire de l'Église. Et ce serait très intéressant de regarder ça au point de vue topique, philosophique, mais comme toute la philosophie du Moyen-Âge. C'est très intéressant de voir ça. Et saint Thomas, je crois, une fois de plus, est le premier à donner des principes nets et précis entre les rapports de ce que représente le point de vue de l'Église et le point de vue de l'État. C'est en revenant à Aristote, saint Thomas a commenté la politique d'Aristote. C'est en revenant à Aristote que saint Thomas donne un traité sur le point de vue politique des régnaux. Petit traité. Et dans la Somme, où il transpose le point de vue politique à l'économie divine. Et pour saint Thomas, c'est très net. Hein. C'est que l'homme a une indépendance fondamentale vis-à-vis de la communauté politique. Indépendance à l'égard de ses finalités. Et dépendance au niveau du conditionnement. Et tout est là. On le reverra, nous, de notre manière, mais tout est là. Quand on essaie de comprendre la situation de l'homme par rapport à la politique, au point de vue chrétien, il faut d'abord la comprendre au niveau philosophique, comme toujours. Est-ce que l'homme est une partie de la communauté politique? Partie au sens absolu. Ou est-ce que l'homme a quelque chose en lui qui est au-delà de la communauté politique? C'est tout le problème que vous retrouvez avec Maritain entre l'individu et la personne. Et je crois que c'est une coupe qui n'est pas tout à fait exacte. Mais Maritain a très bien senti le problème. Mounier l'a très bien senti. Ils ont senti profondément qu'il y avait là tout un problème qu'il fallait, sur lequel il fallait réfléchir, qui était capital. Pour saint Thomas, je résume, hein, il me semble bien, pour saint Thomas, l'homme, comme homme, est partie de la communauté politique. Homo, ut homo, es pars civitatis. L'homme comme homme est partie de la cité. C'est très important de comprendre ça. Et ceci, c'est parce que l'homme est un animal politique. Et donc l'homme comme homme. Mais cependant, la politique présuppose la morale personnelle. La morale personnelle fait que l'homme peut choisir sa fin. L'homme est en vue de la béatitude. Et la béatitude, jamais la politique ne pourra nous la donner. De sorte que la finalité de l'homme, ou les finalités de l'homme, échappent à l'autorité politique. Et je dis bien à l'autorité politique. Parce que quelquefois, le tyran, qui ne regarde plus l'autorité mais le pouvoir, voudra mettre l'homme totalement au service de l'humanité. C'est ce qu'on appelle les totalarismes. C'est pour ça qu'on a toujours peur des dictatures, parce qu'elles deviennent justement tyranniques. Et alors, lorsqu'elles deviennent tyranniques, l'homme ne peut plus respirer spirituellement. On ne respecte pas en lui sa finalité propre. On ne respecte pas qu'il a une finalité qui est au-delà de l'aspect communautaire. Alors, pour saint Thomas, il y a deux finalités, l'amour d'amitié et la contemplation. L'amour d'amitié qui fonde le foyer, qui fonde la communauté familiale. La communauté familiale, dans son fondement, est indépendante de l'État. C'est-à-dire à quelque chose de plus radical que la communauté politique. Et la contemplation est au-delà de la communauté politique. Tandis que tout le devenir de l'homme, disons une partie du devenir de l'homme, dépend de l'aspect politique. Donc vous voyez, c'est finalité et devenir, être et devenir, qui permet de comprendre les relations réciproques qui existent entre l'homme et la communauté politique. L'homme, dans son devenir, peut dépendre de l'aspect politique. L'homme, dans sa finalité, est toujours au-delà de la communauté politique. Il ne faut pas prendre individu et personne, mais il faut prendre devenir, croire. croissance et finalité. Mais vous voyez, la première éducation, c'est le premier devenir. La première éducation est familiale, maternelle. Donc, elle relève de la famille. L'État doit s'occuper d'un devenir qui suit celui-là. Et la loi ne précise pas beaucoup, Saint-Thomas ne précise pas. C'est notre rôle de le préciser. Mais c'est déjà beaucoup d'avoir souligné cela, et c'est déjà très intéressant. Et ceci grâce à la philosophie aristotélicienne. Avec la philosophie platonicienne, j'aurais pas pu. J'aurais dû mettre l'homme entièrement dans la soumission à la politique, jusque dans le mariage. Pour Platon, l'État intervient pour le point de vue du mariage. Il n'y en a pas. Les femmes sont à tout le monde. Et les enfants d'un certain âge peuvent être les enfants de tous ceux qui sont d'une génération antérieure. Ceci en vue de la communauté la plus parfaite qui soit. Communauté des biens, communauté des femmes. Donc il n'y a pas de famille. Tandis que pour Aristote, il y a une famille. Et cette famille implique donc le point de vue du devenir. La première éducation. N'insiste pas, mais c'est un problème très très important. Au Moyen-Âge, le point de vue de ce que représente l'autorité de l'Église et l'autorité de l'État, ça a été secoué dans tous les sens. Le pape est-il l'autorité suprême ? Ou l'empereur est-il l'autorité suprême? Est-ce l'empereur ou le pape? Comme vous ne pouvez pas se battre en duel pour savoir lequel l'emporter, donc on restait toujours à savoir lequel pouvait. Le pape pouvait excommunier un empereur chrétien. Donc il avait un droit moral. L'empereur pouvait-il prendre les biens de l'Église? Pourrait-il intervenir dans les conciles? Mais c'est des problèmes extrêmement intéressants qui sont toujours actuels. Nous avions vu après la position très particulière de Machiavel. Machiavel au moment de la Renaissance. Et c'est très important de voir que c'est au moment de la Renaissance. Donc au moment du renouveau, après une grande crise, Machiavel s'élève pour proclamer dans son petit livre Le Prince, proclamer que la politique n'a rien à voir avec la morale. Et que la politique est uniquement une question d'habileté. C'est même pas de l'art, c'est de la virtuosité. Soyez virtuose, merveilleusement virtuose, et alors vous serez un bon politique. C'est, je crois, ce qu'il était. Machiavel est un personnage qui devait être très curieux. Parce qu'à la fois, il était dans l'admiration devant la République romaine. Il y avait chez lui tout un aspect traditionnel. Ça, c'est très vrai. Dans les discours, c'est tout cet aspect-là qui domine, sur le point de vue romain. Et en même temps, il était plus que révolutionnaire. Puisque pour lui, le résultat, la réussite, la victoire au niveau temporel, était ce qui commandait tout. Donc, on peut dire que Machiavel est le premier à nous faire, à nous donner une politique artistique, complètement coupée du point de vue moral. Alors, nous allons maintenant voir deux grandes positions, celle de John Locke et la position marxiste. Je parle au niveau politique, pas au niveau économique. Faites bien la distinction. Il y a un libéralisme économique qui n'est pas la philosophie libérale. Alors, y a-t-il une économie marxiste qui n'est pas le marxisme? Point d'interrogation. C'est très important. Alors, je ne veux pas entrer dans Locke dans tout l'aspect, mais je crois qu'il est quand même intéressant. Nous avions commencé, je crois. Alors je reprends parce que je crois qu'il faut quand même insister un petit peu sur ce que représente cela. Alors je commence en vous lisant ce passage de Jean-Jacques Chevalier, c'est comme ça qu'il commence, donc dans son tome second, page 24, il nous dit ceci. Lorsqu'en février 1689, la princesse Marie, fille de Jacques II, roi détrôné et épouse de Guillaume d'Orange, le nouveau roi, quitte la Hollande. La Hollande joue toujours un très grand rôle. Vous voyez, quitte la Hollande pour rejoindre son mari en Angleterre et se faire couronner conjointement avec lui. Elle emmène, j'allais dire dans ses valises, elle emmène sur son vaisseau l'Isabella, un affable gentilhomme, médecin et philosophe, du nom de John Locke. Dommage qu'il n'y ait pas une photographie. Pour voir la princesse et le philosophe, c'est très intéressant, que les circonstances ont conduit à jouer un rôle actif de conseiller politique. C'est très intéressant, conseiller politique. Hein. Toujours cette nostalgie de Platon, le roi philosophe. Machiavel, conseiller politique. John Locke, conseiller politique. Alors on commence à partir de ça, c'est bien vu, ce petit flash est très bon. Il est très net. À partir de là, né en 1632, Locke est donc âgé à ce tournant capital de sa vie de 56 ans. C'est bien l'âge politique. Pour saint Thomas, c'est 45 ans, mais de 45 ans à 56 ans, c'est l'âge politique. L'âge politique, vous voyez, c'est la démangeaison que nous avons de jouer un rôle au niveau communautaire. Alors, comme aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, vous pouvez dire qu'à partir de 30 ans, vous êtes entré dans l'âge politique. On veut jouer un rôle. Parce que nécessairement, il faut réformer. Quoi. C'est. Ce qui est avant nous n'est jamais adéquat à ce que nous pensons. Alors nous voulons réformer. Il faut réformer ça quand même. Voyez, il faut réformer. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est net, c'est clair. Alors il faut réformer. L'âge politique, très intéressant. Oui, on dit que l'âge politique, c'est toujours le point de vue de la concupiscence. Pas du tout, c'est l'irascible. L'irascible est beaucoup plus terrible que la concupiscence, vous savez. Et ça, Hésiode a très bien vu. Nous sommes tous plus ou moins freudiens, alors on est à plat ventre. Ça, c'est le concupiscible. Tandis qu'au contraire, si on était des hommes, on serait debout, avec le glaive en main. Et ceux qui m'aiment me suivent. Alors c'est ça, c'est la réforme, vous voyez. Ça, c'est les racines. Il faut couper en deux tous les hérétiques. Et c'est les racines qui dominent. Il faut les couper en deux, tous ceux qui sont dans un... Pas pour en faire deux. Entre toutes les femmes.